session du Père Marie-Dominique Philippe sur métaphysique aujourd'hui, le 4 juillet l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Vous avez dit ce matin, mon père, que ceux qui sont à votre droite sont réalistes, alors. Mon père, il y a d'abord deux questions sur ce que vous avez dit hier. Une première, c'est sur les rapports entre la philosophie et la science. Et vous avez dit ça. Pourquoi dites-vous que la suppression de la métaphysique entraîne la mort de la science, des sciences modernes ?
Historiquement, il est sûr que la science, les sciences modernes, sont nées à l'intérieur d'une connaissance théologique et philosophique. C'est assez net. Personne ne met ça en doute. Et le phénomène scientifique est propre au courant grec. Vous avez beaucoup moins ce courant en Asie, dans l'Inde. Il n'existe qu'en fonction du courant hellène. Dans le courant hellène, c'est sûr, et d'une certaine façon, la science n'est plus grecque. La sagesse est des Grecs, la science est plus grecque. Elle est née dans un climat chrétien. Elle est petite-fille. Alors, il y aurait ici à bien discerner la différence entre la sagesse et la science. On aura l'occasion d'y revenir là-dessus. Parce que si on a un peu de temps pour voir l'éclosion de la philosophie, on verra l'éclosion d'une sagesse. C'est très beau. Dans l'écriture, il y a un passage très beau. C'est le passage de la naissance de Moïse. Je me souviendrai toujours dans ma vie, je connaissais bien deux sœurs. Je connais surtout une, et par là, je connaissais l'autre. Une de ses sœurs s'était mariée avec un catholique, l'autre sœur s'était mariée avec un marxiste. Quand elles ont eu leurs enfants, elles avaient fait qu'elles aient des enfants à peu près au même moment. La sœur catholique m'a dit « Est-ce que vous pourriez baptiser mon enfant ?» J'ai dit « Oui, très bien, très volontiers. » C'était du temps où je faisais encore des baptêmes. Et elle a dit « Alors pour ma sœur, son mari demande qu'il n'y ait pas de baptême. Je voudrais beaucoup qu'après le baptême, on puisse se réunir chez nous, avec ma sœur, et qu'il y ait une fête familiale pour les deux. Est-ce que vous ne pourrez pas parler pour les deux, pas uniquement pour le baptême ? Je vous avertis d'avance qu'avec ma sœur, c'est tout un autre courant, et toutes les personnes qui viendront seront la plupart dans la franc-maçonnerie. Le grand maître franc-maçon sera là. Je ne sais plus quel franc-maçon, la grande franc-maçonnerie. Et je vous avertis d'avance pour que vous preniez un sujet qui puisse quand même convenir à tout le monde et que ce soit une fête pour tous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je dis oui, c'est très bien. Un œcuménisme vrai. On doit pouvoir le faire en fêtant la naissance d'un enfant Alors j'avais cherché un très beau texte que tout le monde reconnaît, la naissance du petit Moïse. C'est du reste très beau pour nous de mettre ce texte, la naissance du petit Moïse, avec la naissance de Jésus. Alors ça, je regardais pour nous. Et je prenais uniquement la naissance de Moïse. Tout le monde peut regarder ça. La naissance de Moïse. Un franc-maçon voit la beauté de la naissance de Moïse. Et la mère avec l'enfant. Et le petit Moïse par là, reçu comme enfant, comme petit enfant, chez le Pharaon. Et donc, ayant toute l'éducation du Pharaon de l'Égypte, tout en écrant du peuple béni de Dieu. C'est très extraordinaire comme chose, hein. La manière dont Dieu fait qu'une culture égyptienne, la grande culture égyptienne, soit donnée à Moïse, l'élu de Dieu, pour son peuple. Dieu est suprêmement intelligent pour faire ça. C'est très astucieux. Et c'est merveilleusement astucieux. Et on peut développer ça, vous voyez. Parce que c'est très humain. C'est très profond. Ça va très loin. Eh bien, je crois qu'on peut dire que les sciences sont nées de la philosophie, les sciences expérimentales, pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est très curieux, sont toujours nées comme rivales de la métaphysique. Elles ne sont pas filles de la métaphysique. Alors que les sciences expérimentales le sont. Il y aurait une très grosse différence à voir avec. Vous voyez, il y a un peu, au niveau philosophique, où on voit Aristote et Platon, et on trouve les mathématiques sont du côté platonicien, et les sciences et la philosophie, les sciences expérimentales, ils sont du côté de la philosophie. Alors, au point de vue de la naissance, c'est net, sauf les mathématiques. Et alors, quand on voit l'alliance des sciences et des mathématiques, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que la philosophie devient inutile. Parce que les mathématiques ne tolèrent très difficilement la métaphysique. Mais ce qui me semble dans ce que j'ai dit, c'est que la philosophie maintient l'éveil de l'intelligence. Et ma raison résonante, qui est très présente en mathématiques, très présente dans les sciences mathématiques, se nourrit de l'intelligence. Je crois que si on éteint l'intelligence, on éteint la raison. Parce que la raison, ce n'est qu'une modalité de l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence à toute sa force. Je ne peux pas développer ça parce que ça irait très loin.
Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Que la métaphysique soit le développement naturel de l'intelligence humaine. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de métaphysiciens alors ?
Oui, le développement naturel de l'intelligence, c'est sûrement une philosophie de l'être. Et donc une philosophie de l'être qui aboutit à la métaphysique. Qu'est-ce que l'être ? La grande question. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Nous allons la poser entre nous. Hein. Et c'est grandiose comme question. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et seule la métaphysique répond. C'est le propre de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et vous comprenez bien, si on comprend le côté fondamental de cette question, on comprend combien la métaphysique est à la racine de tout développement non intelligence. Alors, je ne peux pas prouver que la métaphysique est naturelle. Je l'expérimente. J'expérimente que l'affirmation « ceci est » est une affirmation radicale. Et que cette affirmation à la fois nomme tous les êtres possibles, tous les étants possibles, et affirme leur être. Ce langage que je peux expérimenter est signe que c'est vraiment quelque chose de radical pour l'intelligence, puisqu'il n'y a rien avant. Il y a ceci, 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 et ceci, et. Donc, il y a un signe, il n'y a pas plus. Le signe, c'est le langage. Le langage est signe de mon intelligence. Mon intelligence existe avant le langage. Mon être d'intelligence est plus radical que mon langage, mais mon langage dépend de mon intelligence. Autrement, je serais un perroquet. Beaucoup de gens sont des perroquets. Je me suis amusé une fois. C'est méchant. C'est méchant, mais ça fait rien. Quelquefois, il faut l'être. On avait à Fribourg, je ne nommerai pas les gens alors, on avait à Fribourg ce fait que passaient les jeunes lauréats français de normal, jeunes professeurs, jeunes conférenciers, ils passaient à Fribourg. Il y avait une conférence. On était tous invités, tous les Français étaient quasi obligés par solidarité de Français qui habitaient à l'étranger. On n'est jamais plus Français que quand on vit à l'étranger. Quand on vit en France, on critique la France. Mais quand on est à l'étranger, on ne la critique plus. On la défend. Et donc, chaque fois qu'il y avait un Français, on allait... À un moment donné, très occupé, et on avait annoncé une conférence. J'avais pas envie du tout d'y aller. Je me suis dit, tant de conférences, une heure de perdu, puis après le vin d'honneur, les réflexions de trois heures, je n'y vais pas. Puis pratiquement, on m'a dit non, il faut y aller, vous devez y aller. Bon, j'étais obligé d'y aller, j'étais. Dès le début, je me suis aperçu que cette conférence était avant tout une conférence un peu mondaine, c'est-à-dire un feu d'artifice, ce qui arrive facilement pour les Français, un feu d'artifice, aime de séduire le public. Une conférence extrêmement élégante sur un sujet difficile. Et alors, assez vite, on s'aperçoit de ça. Je me suis dit, oh, c'est un sommet, je vais perdre mon temps. Puis je me suis dit, non, on va s'amuser. Parce qu'on peut toujours s'amuser. Je vais noter chaque fois qu'il dit une expression que sans doute il ne comprend pas au plan philosophique. J'avais 10 mots très importants, des clés, transcendant tous les mots qui m'arrivent, immanent, le nombre de fois qu'il les disait, alors j'accrochais, une façon d'étudier, une façon de suivre, je suivais très bien la conférence, en inspectant la dette au passage, à la fin, pas, chaque fois qu'il emploie ce mot. Alors, j'espérais, la conférence étant terminée, j'ai fait mon petit tableau. J'espérais filer vrai. Je suis plongé pour la conférence pour qu'on ne me voit pas. On m'a repéré. On m'a dit, venez prendre le vin d'honneur. Elle a dit, non, je veux le vin d'honneur. Venez prendre l'honneur. Parce que c'était très visible qu'il ne connaissait pas la signification de ces mots. Cet mot était là par pure illustration. Par pure séduction. C'était brillant. C'était brillant. C'est très bien d'être brillant s'il y a quelque chose qui est vrai. Le brillant pour le brillant, c'est pas philosophique. Non. C'est mondain. C'est pas philosophique. Et comme j'avais, en suivant de cette façon-là, noté qu'il ne savait pas du tout la signification de ces mots, et qui les employait. Alors je ne voulais pas y aller parce que ça aurait sorti en le remerciant beaucoup d'avoir une conférence aussi brillante et que je voudrais savoir la signification de ces mots. Mais on m'a obligé d'y aller. Moi j'y étais, je me suis tue. Puis quand tout le monde a parlé, on m'a dit, mon père Philippe, qu'est-ce que vous dites de cette conférence ? Je salue le jeune lauréat normalien. Il avait tout pour lui. Il était très brillant. Il dit, je vous interroge à la manière de Socrate. Ça ne vous dérange pas ? Alors, il m'a dit, oh non. Je voudrais savoir, vous avez dit tant de fois ce mot. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Silence. Éloquent. Vous avez dit tant de fois ce mot. Silence. Éloquent. J'ai fait jusque 3. C'était suffisant, n'est-ce pas ? Un triple silence. Silence. Je lui ai dit, écoutez, entre nous, parce qu'il n'y a que des professeurs ici. On peut donc parler un langage de vérité. On a le droit, dans un examen, d'employer des gros mots dont on ne connaît pas la signification. C'est faisable. Exactement quand on passe une douane. Alors, on emploie des grands mots. Si l'examinateur est intelligent, on aperçoit tout de suite. S'il n'est pas intelligent, c'est très bien. Vous l'avez possédé. Mais en conférence, où on mobilise des gens pour vous écouter pendant 1 heure, on n'a pas le droit de faire ça. Tous mes mots que j'emploie en conférence ont pour moi une référence et signifient telle chose. Ça, on a le droit. Vous aviez le droit de ne pas le dire, mais si je vous interroge, vous devez me le dire. Parce que c'était très visible que ce mot était employé dans des circonstances très différentes et ne signifiait pas ce qu'il vraiment signifie. En conférence, quand on fait une conférence, qu'on mobilise les gens, on n'a pas le droit d'employer des mots dont on ne comprend pas la signification. Parce que c'est très grave. Le mot, c'est comme l'argent. Il signifie quelque chose. Il y a une pensée derrière. S'il n'y a pas de pensée, c'est comme le fausseur d'argent. le fausseur de monnaie qui emploie une fausse monnaie. Vous employez une fausse monnaie quand vous ne savez pas la signification de ce mot. Alors, il avait mis pour... C'est dur. Mais il était très chic. À la fin, devant tout le monde, il m'a dit, mon père, merci de m'avoir dit ça. On ne m'a jamais dit ça. Qu'un conférencier n'avait pas le droit de servir de mot dont il ne savait pas exactement la signification. Je dis, il faut être vrai dans votre langage, comme vous désirez être vrai dans votre pensée. Et il avait dit très chic, parce qu'il aurait pu très bien. C'était rude pour lui. Première conférence, c'était une des premières qu'il faisait. Alors, quand il s'agit de la science, la philosophie a existé et c'est suffisant pour que la science existe. Mais si on supprime la philosophie, on ne pourra pas la supprimer parce que c'est naturel de penser. C'est naturel d'être philosophe. On ne pourra pas l'empêcher. Même si on l'enlève, on remet en France, à la Sorbonne, un cours de métaphysique. Mais les instituts catholiques le suppriment. C'est très significatif. Parce que c'était plus à la mode. Mais quelqu'un s'est battu pour qu'on maintienne un cours de métaphysique à la Sorbonne. Un cours de philosophie qui aille jusqu'à la métaphysique. Il faudra voir quelle est cette métaphysique. Mais c'est déjà bien qu'on emploie le mot. Parce que Heidegger avait dit « une métaphysique est morte ». Et il voulait l'ontologie fondamentale.
Mon père, il y a plusieurs questions sur les rapports entre l'expérience interne et l'expérience externe. Notamment, vous avez parlé de ces deux grandes expériences, le ceci est et l'expérience de l'amitié. Alors, est-ce que l'expérience de l'amitié n'est pas d'abord une expérience interne ?
Oui.
Et alors, comment est-ce qu'elle peut être le point de départ d'un point de vue philosophique ?
S'il y a l'autre point de départ.
Et puis, alors justement, quel ordre vous mettez entre expérience interne, expérience externe ? Et puis, quelle différence vous faites entre l'expérience interne au sens philosophique et ce qu'on peut appeler le vécu en phénoménologie ?
Oh, très bien, ça. Génétiquement, je vous ai dit que ceci est premier, radicalement. C'est la première expérience de mon intelligence, avec le toucher. Et le toucher est le sens le plus réaliste. C'est même le seul sens qui soit totalement réaliste, le toucher. Ceci est. Vous voyez, quand vous dites ceci est, vous touchez la chose, vous touchez la statue, vous touchez le lézard, vous touchez le crapaud. Ceci est. C'est l'intelligence liée au sens externe du toucher. Mon doigt est intelligent. Parce que c'est le doigt, un doigt humain. Alors, mon doigt est intelligent. Mon intelligence anime mon doigt. C'est sûr. Et j'ai le droit de toucher. Donc ceci est. Personne ne peut m'enlever ce droit. Mon intelligence est présente dans ma vue. Mon intelligence est présente dans mon goûter, dans mon goût, dans l'odorat, ainsi de suite. Toute expérience est humaine quand il y a sens externe et intelligence. L'intelligence interne c'est l'intelligence, du moins l'expérience interne, c'est l'intelligence plus ce que je ressens au-dedans de moi, mes émotions, ce que je sens au-dedans de moi. J'ai mal à l'estomac. Quand j'ai mal à l'estomac, je dis que j'ai mal à l'estomac, mais vous ne le voyez pas. Et vous croyez que ce que je dis, l'amour naît au-dedans de moi. Quand j'aime quelqu'un, qu'est-ce que c'est ça? C'est une expérience interne. C'est pas une expérience externe. Et au-dedans de moi, mon affectivité et mon intelligence. Quelquefois, ce n'est que l'affectivité. Alors, ce n'est pas une expérience interne, humaine. Quand il n'y a que la passion n'est pas une expérience, parce que l'intelligence est absente. Quand vous êtes en colère, l'intelligence n'est pas présente. Vous êtes en colère parce que quelqu'un qui n'a pas d'autorité vous fait une remarque sur un sujet auquel vous avez une autorité. Et vous sentez qu'il usurpe, il commet une injustice. Et on se met à ce moment-là en colère. Mais il faut que l'intelligence soit là. Vous voyez, quand vous aimez passionnément un petit gâteau, ça peut arriver. Vous aimez passionnément un très bon vin. Vous pouvez le boire avec une expérience humaine et vous pouvez le boire comme un alcoolique le boit. Uniquement avec la passion, sans intelligence. Quand vous voyez des gens un petit peu éméchés et sous, qui continuent leur expérience avec le bon vin ou la liqueur, sans l'intelligence. Donc, dans toute expérience, l'intelligence est éveillée. Et l'intelligence s'éveille différemment dans les expériences où les sens externes sont présents. Et l'intelligence s'éveille autrement dans une affectivité, dans une passion interne, qu'elle soit passionnelle de l'irascible, qu'elle soit passionnelle du concupiscible. Et l'intelligence s'éveille là. Vous avez donc deux types d'expériences. La plus fondamentale, c'est celle de sens externe. Elle est radicale, celle-là, avec le toucher. Et la plus radicale au point de vue interne, ce n'est plus la plus radicale, c'est celle qui va le plus loin. C'est l'expérience de l'amour d'amitié. Où le concupiscible, la passion du concupiscible est présente, mais elle est dépassée par l'intelligence. Donc, il y a bien ces deux expériences externes, extrêmes. Ceci est, Pierre est mon ami, Pierre, tu es mon ami. Et je crois, personnellement, que c'est vraiment les deux expériences externes. Je ne crois pas que ça a été dit expressément. Aristote ne l'a pas dit, saint Thomas ne l'a pas dit, et parmi les modernes, je vois aucun qui s'est intéressé à ça, alors que je crois que c'est très capital. Mais c'est quelquefois les choses très importantes dont on ne parle pas. C'est très important de voir que l'expérience radicale du sens externe, ceci est. Et l'expérience ultime, affective, je t'aime. Je t'aime, le je et la présence.
Où est-ce que vous situez le je suis par rapport à ça?
Ah, le je suis par rapport au je t'aime, comme le je suis n'a pas la profondeur du sens externe, d'expérience externe, mais il a une profondeur très particulière d'immanence, de lucidité. Et je suis demande de s'achever dans je t'aime. J'ai le droit de dire je suis si je dis je t'aime. Je n'ai pas le droit de dire je suis avec le plaisir d'exister et de se tourner les pouces. Je suis. Et c'est le Bouddha. Je suis. Et je regarde à droite. Je suis. Je suis. Je suis. Tandis que si je dis je suis pour t'aimer, ah, je donne un sens à je suis. Le je suis n'a pas son sens capital. Et c'est pour ça que ce n'est pas une expérience fondamentale. Je suis.
Donc au fond, quand vous dites dans la métaphysique de la personne que vous regardez le je suis, ce n'est vrai que s'il y a en même temps l'amitié.
Tout à fait.
Donc c'est quoi? C'est plus la finalité que vous mettez en lumière?
Oui, ouais. La finalité, comme la lumière. Et la finalité me permet de réaffirmer le je suis d'une façon nouvelle. Quand on le dit à partir de l'ami, je suis. Pour l'ami, je suis. Mais pour l'ami, je suis d'une façon tout à fait différente quand je dis je suis. Parce que je suis enveloppé de son amour.
Donc au fond, quand les modernes regardent avant tout le je suis, vous rectifiez ça en disant que c'est corrigé d'une part par le ceci est, et puis par l'amitié d'autre part.
Et ça demande d'être corrigé. Je ne peux pas. Les modernes, en s'arrêtant au je suis, font une grave erreur. Parce que le je suis n'a rien d'absolu. Ni du côté du fondement, ni du côté de la finalité. C'est l'erreur de la psychologie.
Alors on confond le moi et la personne, en fait. Est-ce que c'est pas ça que la question qu'on vous posait quand on dit la différence entre l'expérience interne humaine,
oui,
et puis le vécu au,
oui,
sens...
Alors, la différence entre les deux. Le vécu, c'est ramener l'expérience interne à ce qu'il a d'intelligible. Alors que l'expérience interne, je t'aime, est plus que l'intelligibilité. C'est l'amour lui-même. Et l'amour lui-même, lorsqu'il s'agit de l'ami, de la fin, a quelque chose de sui generis qui est plus que l'intelligibilité. L'intelligibilité de mon amour est moindre que mon amour. Or, l'erreur fondamentale de la phénoménologie, c'est qu'on ramène l'amour à l'intelligibilité. Alors que si mon intelligibilité était basée sur l'expérience externe, ceci est, sur l'être, je pourrais alors comprendre que l'amour peut s'épanouir comme amour et n'a pas besoin de l'intelligibilité pour s'épanouir. Et donc je vais plus loin des deux côtés.
Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je trouvais très frappant. Vous avez dit que dans l'amour, le même et l'autre se rejoignent.
Oui.
Alors qu'en fait, quand on regarde par exemple certains penseurs modernes, ils voudraient, ou même chez Platon, ils voudraient que le même et l'autre s'identifient du côté de l'intelligence.
Oui. Alors que le même et l'autre ne peut s'identifier que dans l'amour d'amitié. Il faut l'amour d'amitié pour que l'ami soit semblable à moi et autre que moi. Et plus il est semblable à moi, plus il est hausse que moi. Et ça, alors, ça existe parfaitement dans la très sainte Trinité. C'est, la très sainte Trinité répond au vœu le plus intime de l'amitié. Le Fils est autre que le Père tout en étant identique au Père. Non seulement semblable, mais identique. Et en même temps, il est totalement autre, il est Fils. Le même et l'autre. Et je crois qu'au point de vue théologie mystique, c'est comme ça qu'on doit aborder la très sainte Trinité.
Quelle est la place du jugement d'existence dans l'expérience interne ?
Dans l'expérience interne, donc je prends tout de suite l'expérience interne ultime. Je t'aime. Vous dites ça en vous adressant à Pierre, Jacques, Paul, Arthur, Nicolas. Je t'aime. Et vous entendez l'autre qui vous répond « Je t'aime ». Vous ne pouvez le dire « Je t'aime » que si vous avez deviné que l'autre dit « Je t'aime ». Alors, il y a les deux « Je t'aime » qui se réunissent. L'un va comme ça, l'autre va comme ça. Et ils se réunissent dans le silence. « Je t'aime » appelle l'existence de l'autre « je t'aime ». Donc, tous les deux présupposent leur existence et par là, leur diversité. Dans l'amour, ils sont un, dans l'être, ils sont divers.
Après, mon père, on vous pose plusieurs questions sur ce que vous avez évoqué ce matin, sur la différence entre intuition et expérience. On vous demande, par exemple, bon, d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que l'intuition ? Est-ce qu'elle est une expérience interne ? Et est-ce qu'elle a un fondement dans la réalité ? Est-ce qu'il y a un fondement réel ? Ou bien est-ce que c'est uniquement l'intelligence qui saisit des intuitions ? Est-ce qu'il y a quelquefois l'imaginaire qui intervient là ?
Jacques Maritain dit que ce qui est de premier dans la philosophie, c'est l'intuition de l'être. Alors on l'a bataillé, on dit mais non, c'est l'expérience. Mais cette intuition de l'être est une expérience. Pratiquement, il arrive à dire que cette intuition de l'être est une expérience. Est-ce que tout le monde l'a ? Alors là, il lève les mains au ciel et dit, je sais pas. Mais moi, c'est quand le jour où j'étais comme illuminé par la saisie de l'être, j'ai compris la philosophie. Ceci est. Alors, je lui ai dit, est-ce que ceci est dans votre intuition de l'être ? Mais c'est bien évident. Alors, pourquoi ne dites-vous pas ceci est plutôt qu'intuition de l'être ? Oh, oh, ça fait mieux. Ah, il n'a pas dit que ça faisait plus vrai, ça faisait mieux. Donc j'ai compris que c'était du côté de la manifestation, pas du côté de la vérité. Et qu'en réalité, c'est ceci est. Vous comprenez, ceci est. Tout le monde peut le dire. Dès qu'on a l'âge de raison. Normalement, on suit des cours de philosophie quand on a l'âge de raison. Et on a regardé en disant ceci est. Et quelquefois, je comprends ce que dit Maritain. Quelquefois, quand je dis ceci est, et que je le compare à tous mes autres jugements, je vois que ceci est à quelque chose de fondamental. Je ne peux pas aller plus loin. Si ceci est ou ceci n'est pas. Nier l'être, c'est retomber dans le néant. Ceci est, mais en pleine lumière, être. Et l'être, alors, devient comme lumineux. Et je peux parler d'intuition de l'être. Vous allez mieux comprendre. J'ai fait une fois un cours à Fribourg, pendant toute l'année, sur expérience et intuition. Ça m'amusait beaucoup, ça m'intéressait énormément. Et je suis arrivé au terme à cette conclusion très nette que toute intuition porte sur une relation. Donc sur une forme et non pas sur l'être. L'être, il s'impose. Ceci est. Point final. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas. L'intuition porte sur une relation. Une relation que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais pensée. Vous voyez, au point de vue artistique, quand vous voyez un peintre, un grand peintre, qu'est-ce qui vous séduit ? C'est ce quelque chose qui fait l'harmonie dans des relations très hardies. Quand vous regardez du bon Picasso, c'est extraordinaire de voir ça, des relations nouvelles, très hardies, originelles et originales. Mais originel, vous voyez, deux qualités, deux formes qui sont mises en relation. Vous voyez, cette salle, elle n'est pas bête. L'architecte qui a fait ça a beaucoup pensé. Parce qu'il y avait un bâtiment qui existait. Ces grosses colonnes, vous voyez, elles sont vieilles, hein. Elles existaient, puis on a ajouté ça. Comment arriver à faire l'unité ? C'est tout un problème. On a ajouté ça. Vous voyez, ce système-là. Et on l'a ajouté de telle manière qu'on a l'impression qu'on pourrait le replier. Vieille maison antérieure reste vieille maison et l'autre s'ajoute. Oui, s'ajoute, ça se déplie. Et puisque ça se déplie, ça peut se replier. C'est évident, ça se replie. Alors, on a cette espèce d'unité très curieuse. La première fois que j'ai parlé ici, je trouvais que c'était très intelligent. Et c'est vrai, c'est très intelligent. C'est une salle où il y a facilement une unité entre tous ceux qui écoutent. C'est rare, ça. Et on peut voir tout le monde dans une unité. Bon, c'est l'art architectural qui a trouvé une relation entre Nova et Vitiro. Et on a fait la relation entre Nova et Vétéran. Il fallait que le Nova sorte du Vétéran. Parce que le Vétéran ne voulait pas mourir et il fallait qu'il s'ajoute. Et comme ça, il y avait une unité sans perdre son caractère de dualité, nouvelle relation, très curieuse. Et à ce point de vue-là, c'est très bon, c'est très astucieux. Et on a presque l'impression que ça ne pouvait pas être autrement. Et quand on a cette impression que ça ne peut pas être autrement, pour l'architecte, pour l'artiste, ah, ça c'est parfait. Tandis qu'on a l'impression, toujours en voyant certaines choses, que ça pourrait être autrement. On a tout de suite envie de changer. Ah, ça faut que c'est pas très artistique. Parce que ça a laissé des possibilités. Tandis que là, on a actué toutes les possibilités. On a les gros piliers qui fait que c'est trapu. C'est pas très élevé, c'est trapu. Et en même temps, c'est souple. Parce que ça s'est étendu. Et lui, là, il a eu le chic de faire ça en bois pour qu'on croit qu'on puisse appuyer. Alors, l'intuition porte toujours sur une relation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intuition de l'être, parce qu'il n'y a pas de relation dans l'être. L'être, il est. Il est. Quand il y a une relation, il y a toujours quelque chose antérieur à la relation. L'intuition est toujours seconde. C'est pour ça qu'une philosophie qui repose sur l'intuition, il y a une philosophie plus radicale qui vont sur le fondement de cette intuition. Platon a commencé par l'intuition. Aristote en a montré les fondements. Ce serait une très belle question, ça. Toute relation présuppose un fondement. Parce que la relation, c'est le vieil Aristote qui dit ça, la relation, c'est l'être le plus débile. C'est vrai. C'est l'être le plus débile. J'ai compris ce que c'était qu'une relation pendant la guerre, quand on a vu la débâcle. Je suis arrivé à Toulouse, à la place du Capitole. Et il y avait là, dans la grande place, des petites mot donnant l'adresse de monsieur et madame Intel. L'adresse. Il se trouve là maintenant. L'adresse. Il a envoyé tout le monde qui regardait. J'ai compris que celui qui sortait de son trou, de son clocher, cherchait. Il n'avait que 4 noms dans son dictionnaire personnel. 4 relations. Je voyais celui qui avait beaucoup de relations. Ah, oh, un tel, oh, tiens, il est là. Ah, oh, un tel, oh, il est là. Les relations. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent que par leurs relations. Hein, ça existe, ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent que par leurs relations. Sur leur carte de visite, il y a 20 relations. Pauvre petit bonhomme qu'il est, il est 20 relations. 20 personnes. Puis l'autre qui sort de sa campagne, il a 4 relations. Une relation quelquefois, monsieur le curé. Et puis le médecin. Il n'a pas d'autres relations. La relation, elle est le plus débile, il faut être 2 pour que la relation existe. On n'est jamais relation avec soi-même. L'identité, c'est être relié à soi-même. Mais on n'est pas relié à soi-même, on est soi-même. Mais on peut très bien imaginativement se diviser. Je suis en relation avec mes pieds. Mes pieds, c'est pas ma tête. Je peux être en relation. J'ai les pieds dignes de ma tête. j'ai une main digne de ma tête. Et j'ai quelquefois un nez qui n'est pas digne de mes yeux. Alors, ça, c'est purement imaginatif, hein. Parce que la réalité, c'est que votre nez et vos yeux, c'est pas vous qui les avez mis comme ça. C'est curieux qu'ils ont mis comme ça. Alors que votre nez irait si bien avec quelqu'un d'autre. La relation s'impose. Et l'artiste a l'art de transposer des relations comme ça, de mettre le vetera et le nova relasi. Il aurait pu mettre le vetera ici et le nova plus, non? Le vetera, ah, il a l'âge, il doit être au-dessus. Il fallait cette inclination. Et quelquefois, on voit des inclinations inverses. Quand il s'est trompé. C'est très curieux ces jours-là. Il faut être sensible à ça. C'est comme ça que vous arrivez à juger les choses qui sont belles, harmonieuses, et celles qui ne le sont pas.
Là, il y a une dernière question.
Oui.
Vous avez parlé tout à l'heure du...
Par surcroît.
Vous avez parlé tout à l'heure du choix. Du choix du point de départ de la philosophie.
Oui.
Mais est-ce que parler de choix, ça n'introduit pas quelque chose qui est subjectif?
C'est-à-dire qu'il faut y avoir un choix naturel, un choix qui s'impose. Alors c'est un choix, mais purement objectif. Et c'est ce qu'il y a dans ces deux expériences extrêmes. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'elles sont extrêmes, fondamentalement et ultimement. Il n'y a rien au-dessus. Quand j'ai découvert ça, je dis, c'est merveilleux. Je comprends qu'une philosophie qui se fonde sur ce double choix tient bon. Alors, c'est un choix subjectif, oui, mais objectif, qui s'impose à moi. Il s'est imposé à moi. Et je l'ai choisi. Et on verra ça du reste. C'est très curieux quelquefois chez des fiancés. C'est là qu'on le voit le mieux. Si je l'aime, c'est vraiment celle que je choisis. Elle s'impose à moi. Et je la choisis, mais je ne peux pas faire autrement. Ah. Je ne peux pas faire autrement. Donc, il veut par là montrer que ce choix subjectif est dans un fondement naturel. Et je dirais, pour la philosophie, je choisis une philosophie à partir de ces deux expériences, mais je ne peux pas faire autrement. Et j'aime qu'on m'apporte des objections pour que je fracasse ces objections et je montre qu'elles ne tiennent pas. Parce que quand on dit l'âge épistémologique, ça ne tient pas. L'épistémologie est toujours seconde. Je ne peux pas bâtir une philosophie sur quelque chose de second. Il y a quelque chose avant. L'interprétation. Mais l'interprétation n'est pas première. On interprète quelque chose qui existe déjà. Et c'est ce quelque chose qui existe déjà qui m'intéresse, moi. L'interprétation, allez-y. Ça, c'est pour pour embellir la chose, pour faire que ce soit meilleur et mieux. C'est faire de la dentelle. Voilà.